Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
C'est donc une nouvelle semaine qui démarre dans RTL vous régale, tous les jours jusqu'à vendredi, 11h-12h30, direction la côte ce matin. Mais laquelle, me direz-vous, si je vous dis, allez, en 4 briques. Huîtres, Coquille Saint-Jacques, Dinard, Saint-Malo,
Cancale,
jetez-vous à l'eau,
Émeraude.
Bienvenue sur la côte d'Émeraude, exactement, ces incontournables, ces évidences, ces spécialités. Et puis notre ambassadeur du jour, ce sera Philippe Chevalier qui sera avec nous tout à l'heure, en direct s'il vous plaît, depuis Saint-Malo en plus.
Ah.
Et puis à mes côtés, évidemment, ceux qui sont en deuxième semaine. Louise Petit-Renaud, bonjour.
Qualification,
ouais. C'est pas encore la finale, mais on s'approche. Louise et Jean-Sébastien Petit-Demange.
En huitième, alors.
Pardon ?
Ça va être joli en huitième.
Ça vient de le dire. Un mot sur le terroir du jour, Jean-Séb, justement. L'Ille-et-Vilaine, qui sera un peu notre territoire de jeu aujourd'hui.
Mais c'est le département dans lequel se trouve la capitale bretonne, d'abord, Rennes. Mais nous allons partir sur la côte, qui est un peu au nord de Rennes, la côte d'Émeraude. On passera par Cancale, évidemment, port jadis réputé pour ses Terre-Neuves. Et ces femmes au verbe haut qui faisaient tourner la ville lors des longues campagnes de pêche de leurs hommes dans l'Atlantique Nord. Cancale, c'est un terroir d'huîtres réputé dans le monde entier aujourd'hui. Un coin de Bretagne qui est le terrain de jeu d'Olivier et Hugo Rollinger. Mais la côte d'Émeraude, c'est aussi Saint-Malo, la cité corsaire, vénérant la mémoire de Surcouf et de Duguay-Trouin. La ville natale de Jacques Cartier, découvreur du Canada. Faut imaginer cette ville entre le 16e et le 18e. Saint-Malo était un peu le Cap Canaveral des mers du Royaume de France. Les expéditions les plus incroyables partaient de là. Les Malouins ont vogué sur toutes les mers, vu tous les continents. Saint-Malo, c'est une ville albatros qui a conquis le monde avant les autres. C'est sans doute ça qui fait l'âme de Saint-Malo et qui fait l'âme de cette côte. En face de Saint-Malo, de l'autre côté de la Rance, il y a Dinard, une des plus anciennes stations balnéaires de France, qui a longtemps été surnommée la petite Nice du Nord. C'est marrant, hein, quand on n'a pas d'imagination, on dit, on prend un truc, c'est ça, il y a la petite Venise du Nord, la petite Venise, la petite Nice, le machin. Et d'ailleurs, pourquoi Nice ne serait pas la grande Dinard du Sud?
C'est tellement vrai.
C'est tout. Enfin, en attendant, à Nice, il y avait Oscar Wilde, il y avait Agatha Christie, il y avait Winston Churchill qui sont allés là-bas, j'en passe et des meilleurs.
Premier coup de gueule de la semaine, à mettre à l'actif de Jean-Sébastien Petit-Demange.
Ça commence bien.
Louise, vous aimez les galettes ?
Mais oui, forcément, on est obligé de parler de la galette bretonne. Alors, les historiens établissent l'origine de la crêpe à 7000 ans avant Jésus-Christ.
Ah, quand même.
À cette époque-là, on faisait une galette assez épaisse, réalisée avec une pâte mêlant de l'eau, des céréales écrasées, donc c'était assez consistant. On cuisait ça sur une pierre plate bien chaude, et c'est arrivé en Bretagne qu'au 13e siècle uniquement. Et c'est arrivé bien sûr avec le sarrasin qui a été rapporté en France après les croisades en Asie, et ça a permis de confectionner cette fine couche, cette jolie galette au blé noir, appelée donc aussi farine de blé noir. Et l'avantage de cette galette, comme il y a plein de problématiques l'été, c'est qu'elle est sans gluten.
Et oui.
Donc elle se digère bien. Et il y a une petite anecdote aussi, si vous faites vos crêpes chez vous, si vous nous écoutez, placez une pièce de monnaie dans votre main, et apparemment c'est la prospérité assurée pour le reste de l'année.
Ça marche pas qu'à la chandeleur ce truc-là ?
Bah écoutez, visiblement ça marche tout le temps.
Bon,
c'est une bonne excuse pour goûter des galettes.
On va se balader dans un très joli terroir ce matin jusqu'à midi et demi, et dans la playlist d'RTL vous régale, Dua Lipa. Love Again, extrait de Future Nostalgia, le deuxième album de Dua Lipa. C'est un des plus gros succès internationaux de ces derniers mois. À entendre sur RTL d'ici quelques minutes, mais téléphone également.
Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chacun
notre rat. Et tu m'emmèneras. Ajoutez-y Frédéric Goldman Jones.
1, 2, 3, pour du même.
Et je me jette à ton cou, Gaëtan Roussel. RTL vous régale jusqu'à midi et demi, nous sommes sur la côte d'Émeraude. On vous souhaite un très bon début de semaine.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et vous savez que dans RTL vous régale, à chaque début d'émission, on va vous partager comme ça tout l'été nos évidences, nos incontournables de la région. On est sur la côte d'Émeraude ce matin. Forcément les amis, on va vous servir un peu de fraîcheur, un peu d'iode. On va vous servir un plateau d'huîtres de Cancale. C'est la capitale de l'huître.
Exactement, vous en rêvez, non?
J'adore ça.
Je vous imagine avec un bon plateau, un petit coup de blanc.
Vous imaginez très très bien.
Oui, bah, l'huître de Cancale, c'est une huître à la chair à la fois ferme, souple, avec un parfum iodé très prononcé. Elles sont élevées sur les parcs en face du Mont-Saint-Michel, donc déjà le panorama est absolument sublime. Et elles bénéficient de marées, paraît-il, qui sont les plus fortes du monde. Donc ça veut dire que l'huître, elle se bat, donc elle a du muscle, donc elle est charnue, donc elle est bonne. Il nécessite 3 à 4 années d'élevage, hein, donc ça se mérite quand même une huître. Et c'est en, alors ça j'adore, c'est en 1545 que François Ier accorda le titre de ville à Cancale pour la qualité des huîtres fournies à sa table. Comme génial, quoi, les huîtres, ça mène à tout.
Ouais, absolument. C'est énorme l'activité ostréicole dans le coin.
Oui, il y a 500 hectares, c'est des parcs exploités par une trentaine d'entreprises dans la baie de Cancale. Vous avez un marché aux huîtres qui est ouvert tous les jours. Vous pouvez déguster des huîtres, rencontrer les ostréiculteurs et devant cette baie du Mont-Saint-Michel, enfin, c'est le paradis. Quoi.
Louise, est-ce que vous pouvez nous éclairer enfin sur, définitivement, hein, sur les fameuses numérotations d'huîtres?
Non, mais parce que... Alors justement, c'est...
Enfin, définitivement.
Bah parce que là, à un moment
c'est
donné, ça...
réglementé, ça fait des années que c'est comme ça.
Mais non, mais c'est... numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Mais oui, mais c'est surtout que je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers.
C'est à l'envers.
C'est-à-dire qu'il y a... les huîtres sont classées de 0 à 5.
On résume.
En fonction de leur taille.
Voilà.
Et donc ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que la 0 est la plus petite... Non, plus grande.
Non, c'est la plus grande.
Et la 5, la plus petite.
C'est la plus petite.
Mais c'est le contraire pour les belons.
Les plates, oui. Pour les plates,
oui, absolument.
C'est ça qui c'est intenable cette réglementation quand même. Bah, pourquoi c'est l'inverse pour les belons?
Bah parce que c'est comme ça.
D'accord.
on sait pas.
Des huîtres qu'on peut démarcher, qu'on peut acheter évidemment
sur les marchés,
ouais. les fameux marchés aux huîtres de Cancale.
Évidemment. Et vous avez aussi la coquille Saint-Jacques, vous savez.
Alors on va en parler parce que c'est un bijou ça.
C'est un bijou.
Un bijou extrêmement protégé, extrêmement réglementé comme pêche. C'est l'activité phare du port d'Erquy.
Oui, absolument. Dès qu'on parle de la côte d'Émeraude, la Saint-Jacques d'Erquy. Alors si j'ai envie de vous en parler ce matin, c'est pas parce que c'est la saison, mais justement c'est parce qu'il y a une saison. Il
faudra attendre jusqu'à octobre.
Et qu'il faut absolument en parler.
Octobre 15 mai, hein, la saison de la Saint-Jacques.
Donc c'est une pêche extrêmement réglementée.
C'est-à-dire
que aujourd'hui, vous allez au restaurant, vous voyez qu'il y a écrit Saint-Jacques, vous n'en prenez pas. Elles ne sont pas françaises, ce n'est pas
décongelées.
Des vrais produits.
Ouais.
C'est une pêche qui a lieu uniquement 2 jours par semaine à raison de 45 minutes par jour. Donc comme l'a dit Jean-Seb, les dates changent chaque année.
Non, c'est 1er octobre, 15 mai, ça bouge pratiquement jamais maintenant.
Ouais.
Il faut des coquilles Saint-Jacques qui fassent au moins 11 cm de diamètre. C'est réglementé à la seconde près. Je peux vous dire que ce de Dieppe à Erquy, tous les bassins de pêche... au niveau de la réglementation française, vous avez 45 minutes de pêche et il faut que la drague soit vidée dans le bateau à la seconde près des 45 minutes.
C'est un exercice de style.
Ouais, et la drague, c'est important, c'est une spécificité de la pêche française et d'Erquy, c'est qu'on pêche la coquille Saint-Jacques, on drague la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'en fait la drague, c'est une sorte d'énorme râteau qui va venir décoller la Saint-Jacques.
Mais qui ne s'est pas pris des râteaux en pleine drague? C'est sûr, c'est sûr.
Non, c'est sûr, c'est des pêcheurs, ça fait 40 ans, ils se battent, ils se mobilisent pour que ce soit une pêche pérenne et que ça puisse continuer. Parce que si on n'avait pas ces personnes-là qui établissent cette pêche réglementée, on n'aurait plus de coquilles Saint-Jacques.
C'est tellement réglementé qu'il y a des hélicoptères qui survolent les zones de pêche.
Je l'ai fait, je suis partie draguer un bon matin à Erquy.
Ouais.
Vous avez des hélicoptères qui surveillent les zones, qui surveillent le temps. C'est important. C'est important. Donc surtout, hein, regardez bien les menus des restaurants. Ne mangez pas de Saint-Jacques hors saison.
Jean-Sébastien, au registre des merveilles de la mer.
Oui.
C'est pas la saison non plus.
Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout la saison, mais ça fait partie des vraiment, on a parlé des cigales quand on a parlé de Marseille, ouais. Les ormeaux quand on est sur ce coin-là de Bretagne, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je parle des ormeaux, c'est des ormeaux sauvages, évidemment, parce qu'il y a de plus en plus d'élevage d'ormeaux, ça n'a strictement rien à voir. C'est un peu la différence entre le saumon sauvage et le saumon d'élevage, même si on va vous dire que c'est plus sain, que c'est plus truc, que c'est plus machin. L'ormeau sauvage, c'est une merveille, c'est très compliqué à préparer. Si vous avez d'aventure entre octobre et avril l'occasion d'en trouver dans des restos, goûtez ça au moins une fois dans votre vie. C'est pas donné du tout, c'est très compliqué. Il faut parer l'ormeau, il faut le battre pour l'attendrir, il faut que la cuisson soit extrêmement pointue et précise.
C'est vrai que si c'est pas bien fait, ça peut être très caoutchouteux.
Ah, c'est même imbouffable.
Je préfère manger des bottes.
Absolument.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ben oui, des bottes en caoutchouc.
C'est exactement ça.
On l'avait.
Du pneu aussi, c'est bien aussi.
Ou un sac de couchage.
Bon. Et comment vous le dégustez, vous, l'ormeau?
C'est-à-dire
juste
avec,
comme ça
avec la main, oui.
Oh non, il l'a pas fait.
On le cuisine ou pas?
Ah ben évidemment. Si, évidemment, ça se cuisine. Il faut que ce soit battu longtemps, il faut que ce soit attendri, il faut que ce soit découpé. Et après, c'est un truc, c'est magique. Mais c'est le talent d'un chef, ça. Là, pour le coup, c'est vraiment un produit qui demande un tour de main, un talent de chef qui est...
Tiens, si vous avez un tour de main, si vous avez un certain talent pour le 32-10, par exemple, si vous avez l'astuce pour y arriver au standard d'RTL ce matin, sachez que jusqu'au 23 juillet, c'est une véritable déferlante de cadeaux qui déferle sur l'antenne d'RTL et que vous allez de nouveau, en ce début de semaine, pouvoir rafler peut-être un MacBook, un iPhone 12 Pro, un chèque de 1000 euros, un week-end de Thalasso, une semaine de vacances en famille chez VVF. Rendez-vous tout à l'heure à 11h55 pour tenter de gagner un MacBook Air ou un iPhone 12 Pro ce matin. 32-10, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do, but goddamn, you got me in love again. 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 Again. So many nights my tears fell harder than. My broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you.
Ça va être un des gimmicks de cet été. Love Again, Dua Lipa sur RTL.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise et Jean-Sébastien, on se balade sur la côte d'Émeraude ce matin. On va faire un petit tour du côté de Saint-Malo. Si vous avez le bonheur cet été de vous balader sur les remparts, faites gaffe quand même. Car je rappelle cette maxime. Qui fait le malouin tombe dans le ravin.
juste en face de Saint-Malo et de ses remparts, il y a un contraste saisissant.
Oui, il y a Dinard.
C'est Dinard.
Dinard qui est une station balnéaire qui séduit par la douceur de son climat, par la beauté de son site. Faut imaginer que c'est un modeste village de pêcheurs avant 1850 et c'est l'installation d'une famille anglaise suivie par quelques autres familles américaines qui a changé totalement le cours de l'histoire de Dinard. Très vite, on a construit un casino, on a fondé là-bas le premier club de tennis de France, suivent des grands hôtels, des villas luxueuses dans des styles les plus divers. La ville est devenue la station mondaine de la Belle Époque et c'est dans l'avenue Georges V que se trouvent les plus beaux témoignages de cette période. Dans le registre des belles villas, vous en avez une, par exemple, qui porte le nom d'Eugénie. Alors forcément, quand on pense à cette époque et qu'on a le prénom d'Eugénie, on pense tout de suite à l'épouse de Napoléon III. Et on a raison. Mais dans un « Le saviez-vous » du guide du Routard Bretagne Nord, on vous dit pourquoi. Napoléon III, en 1867, fait construire cette villa. L'empereur doit venir l'inaugurer avec Eugénie. Sauf que l'impératrice a décidé d'emmener son chien-chien. Un bichon qu'elle adorait. Mais manque de peau, l'empereur détestait ce clébard. Il était donc totalement hors de question que le chien vint avec eux. Du coup, Eugénie ne partit pas pour Dinard, direction Biarritz. Elle n'a jamais mis les pieds à Dinard. Et pourtant, la villa porte son nom.
C'est génial.
Tout ça pour le chien.
Ouais. Tout ça pour un chien. Mais en attendant, on est à l'embouchure de la Rance. Et je ne connais rien de plus beau que la rade de Saint-Malo et l'entrée de la Rance, disait le commandant Charcot. La pointe du Moulinet. La vue que vous avez de là-bas sur Saint-Malo et sur la rade est totalement inouïe de beauté. Et puis quand on part à la découverte de cette vallée de la Rance, le fleuve qui serpente jusqu'à Dinan à travers une vallée à la végétation luxuriante qui dissimule des manoirs, des châteaux, des gentilhommières et quelques coins totalement idylliques, on comprend pourquoi les grands marins et les grands armateurs d'antan avaient décidé d'y élire leur domicile en maison de granit. Tout ça abritait des violences maritimes. Je pense que c'est un des plus beaux coins qui soit en France.
Je confirme.
De se retrouver là-bas, dans cette vallée de la Rance.
Moi, j'ai pas mal d'amis du côté de Saint-Jacques-de-la-Mer. Je les salue, ils se reconnaîtront sans doute. C'est joli, Saint-Jacques-de-la-Mer. Il faut y aller, c'est une très belle baie.
Sublime,
faire du kitesurf, etc. C'est très sympa. Vous connaissez la Gounelle ?
Non.
C'est un restaurant de poissons et de crustacés. On est sur la promenade du Clair de Lune, si c'est pas beau, à Dinard. Jacques de Ribeaucourt est avec nous au téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour chef et bienvenue dans RTL vous régale. Alors racontez-nous un peu, parce que la particularité justement de la Gounelle, c'est le poisson évidemment, et c'est le fait qu'on peut déjeuner chez vous les pieds dans l'eau ou presque.
Oui, tout à fait. Donc la Gounelle, hein, je précise, parce que c'est le nom d'un petit poisson de roche qui vit dans les mares et que l'on pêche à pied. Les enfants adorent l'attraper avec des petites épuisettes et c'est un poisson magnifique. C'est un petit poisson qui fait 10-15 cm, qui est toujours avec 5 taches noires et qui s'appelle donc la Gounelle. Et c'est le nom que j'ai donné à mon restaurant.
J'en avais fait.
Comme vous dites, les pieds dans l'eau.
J'en avais fait la Gounelle.
Oui.
C'est la Laguna.
Je me suis permis de vous reprendre parce que.
Mais vous avez raison.
Je ne voudrais pas retrouver, sinon.
Bon, allez, faites-nous rêver, chef. À la carte ce midi, parce que quand on dit poisson, on dit évidemment bar, dorade, mais pas que.
Voilà. Oui. Donc, le restaurant est un restaurant atypique. C'est une grande terrasse. Situé sur le petit port historique de Dinard, le bec de la vallée, on voit Saint-Malo, toute la baie de la Rance, comme vous l'avez si bien décrit. Et donc, nous ne faisons que des poissons et des fruits de mer. Et ce midi, par exemple, on vient de recevoir, le team Chloé vient de nous livrer directement au pied du restaurant des magnifiques homards bretons pêchés entre ici et les Minquiers.
On peut avoir un prix, parce que c'est... Alors, le homard, on dit souvent, oui, c'est cher. C'est vrai qu'il est moins cher chez vous qu'à Paris. Le prix du kilo de homard ce matin ?
Ah ben, le prix du kilo de homard est à... Au marché de Dinard, il doit être à 30 et quelques euros, je pense. Mais bon, nous, pour manger au restaurant, c'est 47 euros les 500 grammes. Ça veut dire qu'ils font compter entre 47 et 50 euros pour vraiment manger un magnifique homard. Et ce que je recommande, c'est le homard minimum 1 kilo, 1 kilo 2 pour deux personnes. Là, vous avez un homard qui est bien fait et avec une chair savoureuse.
Et alors, comment vous le préparez, justement ?
Alors, nous le faisons en deux services. Nous coupons en deux. Il est grillé avec un poivre que j'achète chez Tiercelin, la fabricant d'herbes, d'épices spécialisées, un truc superbe. Et après, nous le passons 3 minutes au four avec une louche de beurre de façon à ce qu'il soit bien gratiné, fait à la bretonne. Vous voyez, il faut que ce soit doré. Beaucoup de gens le mettent juste au four comme ça, mais il est tout blanc. Nous, il est croustillant au-dessus, juteux à l'intérieur. Le bas de la carcasse doit être juste un tout petit peu noir. Vous voyez encore, il doit garder sa côte, son côté bleuté.
Parfaitement.
Pour être comme s'il était rosé à l'arête pour un poisson. Et on l'accompagne avec un petit riz aux dattes, quelques légumes grillés. Et on fait une petite sauce avec juste un petit peu de crème, une pointe de piment et le corail que l'on a récupéré en le coupant en deux.
Voilà, quel bonheur.
Moi, j'adore le manger froid couteaux. Avec une mayonnaise.
Oui, tout simple.
Ah oui. Autrement, nous avons les couteaux que nous faisons ici, là. Donc ça se ramasse, vous savez, à marée basse, avec un petit peu de sel. Vous voyez, on voit les deux petits trous, comme une petite serrure, on met un peu de sel, le couteau sort, on l'attrape. Après, il faut bien les faire dégorger pour retirer le sable. Et alors, nous le faisons griller à la plancha.
À la plancha.
Avec de l'ail ?
À l'ail. Mais j'ai un secret qui fait que mes couteaux sont fabuleux et qu'il n'y a que moi qui sais les faire. Comme ça, je vous donne le secret, hein, mais vous le répétez à personne.
Non,
on est entre nous.
Personne ne nous écoute.
On rajoute dans l'ail, mixé et haché très fin, un peu de poireau. Comme ça, ça fait du jus qui permet, puisque la cuisson doit être très très rapide, ça cuit en moins d'une minute, 30 secondes de chaque côté. Ça permet comme ça, au goût de l'ail, de diffuser et de rentrer tout de suite grâce au jus du poireau.
C'est pour ça que j'adore cette émission.
Une petite louche de beurre.
C'est pour ça.
Une petite louche de beurre frais dessus pour finir et faire la sauce. Et alors, je le reconseille, un simple petit riz blanc, c'est ce qui va le mieux puisque le couteau est un produit magnifique.
Jacques, si on n'avait pas quelques impératifs de timing dans cette émission, on passerait une heure avec vous, évidemment. On vous garderait jusqu'à midi et demi. On aurait pu parler de vos viviers dont les poissons sortent et qui sautent directement sur la table. La Gonelle, restaurant de poissons et de crustacés. On est sur la promenade du Clair de Lune à Dinard. Allez, saluez Jacques de Ribeaucourt, le chef du restaurant et toute son équipe. On vous salue, on vous embrasse et on vous souhaite une très bonne journée, Jacques.
Merci, au revoir.
Belle saison.
À bientôt, au revoir. Et à tout de suite dans RTL vous régale, il est 11h30.
Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite.
RTL.
Jean-Michel Zeka vous régale jusqu'à 12h30.
Et c'est Louise Petit-Renaud qui nous régale de ses bons conseils, de ses astuces, de ses idées recettes dans RTL vous régale tout au long de cet été. On va vous offrir pour cela des montres RTL et des guides du route à Rachette. N'hésitez pas, lancez des défis, lancez des challenges à Louise. Vous envoyez ça par SMS, le mot régale suivi de votre message au 64 900. Elliot est à Asquin, Louise. Il adore les endives, mais ses enfants lui disent que c'est un peu amer. On a tous connu ça. Est-ce que vous avez enfin une solution?
Oui, parce que c'est bien de manger de l'endive, c'est excellent pour la santé, donc il faut continuer de manger de l'endive, mais c'est vrai que l'amertume peut parfois un peu déranger. Alors il y a une petite astuce, il faut retirer le petit cône à la base de l'endive. Et ça va atténuer l'amertume. Attention, ça ne va pas l'enlever, parce qu'une endive reste une endive.
Bien sûr, ce que j'appelle moi un chicon.
Voilà, un chicon.
Voilà, tout simplement.
Exactement.
Sabrina est à Montélimar, et ça c'est pas évident. Comment être certain de réussir ces blancs en neige à tous les coups?
Alors il y a plein d'astuces, je repense à l'histoire de la crêpe où il faut avoir une pièce de monnaie dans la main, j'adore. Alors pour les blancs en neige, il y a une astuce, vous battez les blancs lentement au début et quand tout commence à bien mousser, vous ajoutez une pincée de bicarbonate.
D'accord.
Et c'est pareil pour la chantilly.
Il faut que le bol, le cul de poule comme on dit, dans lequel on balise, soit frais aussi.
Oui.
Il paraît que ça monte plus facilement
quand la température est fraîche. Oui, et puis vous connaissez aussi l'astuce du torchon.
Non.
Pour pas que quand vous battez, allez-y. Et que vous n'avez personne pour tenir le bol à côté, vous mettez un torchon, comme ça ne bouge pas.
Quel talent.
Ouais, ben oui,
incroyable.
Je sais.
Fanny est à Thoiry-sur-Loire. Comment éviter que le beurre brûle dans une poêle?
Alors Fanny, c'est vrai que le beurre résiste mal aux températures élevées. Le petit secret, c'est de verser un filet d'huile d'olive au fond de votre poêle. Ah, et votre beurre ne va pas brûler.
C'est pas vrai.
Si.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire fondre le beurre gentiment.
Mais moi, ce que je vous adore, parce qu'à chaque fois que je donne des astuces, vous me regardez comme si...
Non mais parce que j'adore ça, des trucs de grand-mère et tout.
Je vous imagine chez vous le week-end en train d'essayer.
Non mais ce qu'on peut faire aussi pour que le beurre ne brûle pas, c'est le clarifier tout simplement.
Oui.
Vous enlevez la petite mousse blanche qui se produit là...
à la surface.
Mais c'est vrai que c'est compliqué à maîtriser un beurre dans une poêle bien chaude.
Je suis bien d'accord. Vous voulez lancer des challenges à Louise, n'hésitez pas, je le rappelle, SMS avec le mot régal suivi de votre message. On se retrouve dans quelques instants avec l'ambassadeur d'RTL vous régale. C'est Philippe Chevalier qui sera avec nous dans quelques instants. Vous savez quoi, un jour j'irai à New York avec toi. Vous allez voir. Jean-Louis Aubert est téléphone sur RTL.
Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider. J'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie, pas en toi. Tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Le nulle part, c'est chez moi. Chez toi, chez nous pas. Un jour.
New York avec toi en 85, c'était Téléphone sur RTL. Philippe Chevalier, l'invité d'RTL vous régale dans un instant.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Nous allons élever l'ambassadeur d'RTL vous régale au rang de chevalier de l'émission. Bonjour Philippe C'est Chevalier, joli. Bienvenue.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Oui. Ambassadeur de toute une région, parce que vous y êtes né, parce que vous y avez grandi.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, je suis d'origine...
Non, mais c'est pour ça que oui, ça je me fais l'avocat du diable. Hein. C'était non, des questions.
Oui, mais je vais y répondre. C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Voilà. Non, je n'y ai pas grandi. Je suis d'origine malouine et cancalaise par mon père. Donc j'ai passé à Saint-Malo toutes mes vacances d'été et je continue encore à les passer. Donc je suis complètement imprégné de Cancale, de Saint-Malo, de la baie de Saint-Malo, etc. Mais je suis né à Redon et j'ai vécu à Rennes et à Nantes et après dans le Midi. Donc j'ai pas vécu à Saint-Malo. Enfin, je connais Saint-Malo intramuros surtout comme ma poche.
Voilà.
Puisque c'est quand même mon pays d'origine.
On raconte que tous les chevaliers sont nés sur la côte d'Émeraude.
À tous les chevaliers.
De la famille.
Ah oui. oui, de la famille. Enfin, nous, vous savez, c'est très bizarre les orthographes parce que moi, je suis chevalier avec deux L, ouais. Comme d'ailleurs mes cousins qui sont à Cancale, mais notre grand-père et notre arrière-grand-père commun, lui, n'avait qu'un L. Alors, vous savez, à la mairie, il y a des L qui poussent de temps en temps.
C'est joli.
On ne sait pas sur quoi ils se sont basés.
Sur notre angélisme.
Non, l'histoire des L.
Oui, c'est ça.
Philippe Chevalier, quels sont vos coups de cœur là-bas, vos incontournables à vous, justement?
En réalité, j'en ai plein. Donc, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent. D'abord le coup de cœur pour moi, c'est la côte d'Émeraude, c'est-à-dire cette baie de Saint-Malo, ce qu'on appelle la baie de Saint-Malo, qui va en gros du Cap Fréhel à Cancale, au Mont-Saint-Michel, et qui est à mon avis une des plus belles baies d'Europe. Alors, les Malouins très chauvin, dont je fais partie, disent que c'est la plus belle baie du monde et qu'elle concurrence largement la baie de Rio et la baie d'Along. Alors, en, disons en tout cas que c'est la plus belle baie d'Europe, ou une des plus belles baies d'Europe, parce que c'est absolument sublime. Qu'est-ce qui est sublime? Ce côté majestueux, la lumière qui change tout le temps, les marées évidemment qui n'arrêtent pas d'aller et de venir, les récifs, les rochers à marée basse qui sont recouverts par l'eau quand évidemment la mer monte, et qui laissent toujours apparaître d'autres rochers quand même, qui eux sont insubmersibles et sur lesquels il y a des constructions, les constructions de Vauban. Quand vous êtes sur les remparts de Saint-Malo, vous voyez le Petit B, le Grand B, vous voyez Fort Harbour, vous voyez le Fort La Conchée, le Fort National. Tout ça, ce sont des édifices qui sont construits sur des rochers et ça donne évidemment une couleur et une variation de paysage hallucinante.
Est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir votre carnet d'adresses?
Oui, allez-y.
Pour aller dîner, pour aller déjeuner, justement. Moi, je vois la Brasserie de l'Ouest à Saint-Malo, par exemple.
Oui, là-bas, il y a énormément de restaurants intramuros qui sont excellents. Il y a la Brasserie de l'Ouest, il y a la Brasserie Armoricaine qui est incontournable. Alors, c'est vraiment, dans la Brasserie Armoricaine, c'est, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix. Et puis, il y a des restaurants avec une cuisine authentique de marché aussi, comme par exemple le Bistrot du Rocher, le Boujaron, la Bouche en Folie. Je ne peux pas les citer tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent.
C'est quoi votre cuisine préférée, justement? Est-ce que c'est une cuisine de la mer? Je demande souvent dans cette émission, quelles sont les saveurs, les odeurs de votre enfance?
Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je sais que ça ne sortira pas d'RTL.
Évidemment.
Je ne raffole pas de la gastronomie, j'aime la cuisine. Ouais. C'est-à-dire j'aime les choses simples, j'aime la cuisine de grand-mère. J'aime la cuisine, les bons produits, voilà, exactement. Les bons produits, les choses authentiques. Voilà. Alors, j'aime évidemment tout ce qui... Alors, c'est pas forcément de la cuisine. J'aime bien les fruits de mer, sauf que moi, je ne mange jamais d'huîtres au mois d'août, ni au mois de juillet. Je ne mange les huîtres que les mois en air, parce que j'estime que sinon, elles sont un peu grasses ou un peu laiteuses. Alors, je sais que maintenant, il y a un système qui fait qu'on peut en manger toute l'année. C'est possible. Mais, enfin, je suis très fidèle aux traditions.
Vous avez raison.
Vous avez des principes, c'est bien.
J'ai des principes, voilà, c'est ça. J'ai été élevé à l'école de la rigueur.
Ouais. Puisque vous parlez de produits, justement.
Les bons produits. Oui.
Est-ce que vous avez des producteurs à conseiller aux auditeurs d'RTL chez qui vous aimez vous rendre?
Écoutez, j'ai un ami, mais alors on va dire qu'évidemment, mais il m'a pas payé pour ça. Il y a un très bon poissonnier à Saint-Malo. Il y a beaucoup de poissonniers aux alentours, hein, notamment à Cancale. Il y en a un très bon intramuros. Il est d'autant meilleur que c'est un amoureux de la pêche et c'est un ami d'enfance, c'est Gilles Guinemer, donc la poissonnerie Guinemer. Je peux vous dire que chez Guinemer, vous n'aurez jamais de mauvais... Il a toujours des choses très très fraîches parce qu'il travaille justement avec les pêcheurs, parce que depuis quelques années, on est revenu quand même à une économie plus locale. Autrefois, il n'y avait pas de poisson à Saint-Malo, et c'est revenu en force depuis quand même une quinzaine d'années, même peut-être une vingtaine d'années. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et dans la poissonnerie Guinemer, vous êtes sûr d'avoir... Il a par exemple d'excellents bouquets. Alors, il n'est pas fleuriste, hein, les bouquets,
qu'est-ce
vous savez...
Que c'est bon, ça.
Ce sont ces petites crevettes qui va d'ailleurs peut-être lui-même pêcher au large de Saint-Malo, du côté des îles Chauzet qui sont tout à côté. Ouais. Voilà.
Alors, bah, c'est rare de trouver.
C'est très rare de trouver, c'est pour ça que je le cite. Je crois d'ailleurs que c'est le seul poissonnier intramuros, donc vous ne pouvez pas vous tromper.
Bah, si vous n'avez pas payé, en tout cas, vous avez fait le boulot.
Vous le faites bien. Hein.
Vous avez fait le boulot, même.
J'ai fait le boulot, oui. Et puis, vous avez aussi des producteurs locaux qui se mettent un peu en... Alors ça, c'est intramuros, c'est pas dans la ville, mais tout à côté, c'est dans Saint-Malo. Vous avez les fermiers de la baie. Les fermiers de la baie, ils vendent des très bons produits aussi. Viande, ils sont pas... Je sais qu'il y a du poisson d'ailleurs chez eux, mais c'est surtout des légumes, des fruits, même du vin bio. Moi, je suis pas un fan de vin bio, mais ils vendent des très bons vins aussi. Et puis,
je pense qu'on est bien sur le carnet d'adresses.
Il y a tout pour être heureux.
On est bien. Je vais terminer par signaler que vous êtes quand même le co-auteur de Le sel de la Bretagne. C'est un ouvrage dans lequel tous les amoureux de la Bretagne ont écrit leur madeleine de prose bretonne. Ce qui représente pour vous la Bretagne? Eh bien, c'était la question. Ils ont tous répondu. C'est sorti là, il y a quelques semaines.
C'est ça. Alors, on est 36 auteurs qui font tous, sauf moi, et c'est pour moi un insigne honneur et privilège d'y avoir été intégré. C'est l'Académie de Bretagne. C'est une somme de journalistes, d'écrivains, dont certains sont très, très connus, comme Jean-Paul Kaufmann, comme Patrick Poivre d'Arvor, Jean Botorel,
Irène Frein, Yann Kefelec, vous savez, donc je suis vraiment très très bien entouré.
Voilà, et c'est dans tous les kiosques. Merci ouais. Philippe Chevalier, on vous souhaite un très bel été, breton ou pas.
C'est moi que je vous remercie, et puis Braise à Tao, même si en pays malouin, on ne parle plus vraiment breton depuis longtemps.
Et vive le bon produit.
Et vive le bon produit.
Le grand jeu RTL de l'été, c'est dans un instant, ne bougez pas.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Il est 11h48, vous écoutez RTL vous régale jusqu'à midi et demi en direct avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Les amis, est-ce qu'on irait faire un tour dans le sud?
Oui.
Ça va nous faire du bien. Ouh. Ça, avec le temps qu'il fait sur Paris ce matin. On va dans la Drôme où nous attend Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais bienvenue sur RTL, Nathalie, du côté de Tulette.
Merci, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. C'est mignon, Tulette.
Ah oui, c'est dans le sud de la Drôme.
Quel est le gentilé des Tulétois, c'est ça?
Les Tulétiens.
Les Tulétiens.
Tulétiens.
Oui. Je m'en doutais.
Tulétiens, bien.
Voilà, c'est mais ça. Par où?
Mais par où?
Non, je ne veux rien savoir. Nathalie, vous allez pouvoir tenter de gagner un MacBook Air ou un iPhone 12 Pro. C'est un peu le projet, hein, puisque vous avez appelé le 3210. Jérôme Anthony ou Karine Le Marchand vous propose de jouer avec eux. Et vous me dites...
Et je dis Karine Le Marchand.
C'est peut-être une bonne idée.
Ah.
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 Karine n'est pas là.
Karine n'est pas là. Karine une fois... Karine, deux fois. Eh bien, écoutez, dans ce cas, Karine Le Marchand, vous aurez dit, Louise, vous me faites Karine Le Marchand. Est-ce que vous pouvez me faire Karine Le Marchand ou pas?
Je vous fais Karine Le Marchand.
Alors, regardez, allez. Karine Le Marchand aurait dit, dans ces conditions-là,
vous pouvez faire le
roulement de tambour. Bravo, Nathalie.
Alors, Nathalie, j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que vous repartez avec... Un iPhone 12 Pro.
Merci Karine. C'est énorme. Énorme. Un iPhone 12 Pro.
En l'occurrence,
c'est
le marché.
Bravo Nathalie.
C'est le smartphone le plus performant d'Apple.
Merci.
On avait repéré que le vôtre était un peu en fin de cycle.
Oui.
Et on le savait, on le savait. Ouais. Et donc on a fait ce qu'il fallait. On vous embrasse, on vous souhaite un très bel été en tout cas.
Merci.
Bravo
merci
Nathalie.
Vous de même.
Et merci d'écouter RTL. Merci. Prochain rendez-vous du grand jeu. Tout merci. À l'heure, dans les grosses têtes, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210, 50 centimes la minute ou en envoyant RTL par SMS 74 900 75 centimes d'euros par SMS. Je vous souhaite bonne chance.
Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça me rendait fort.
Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne.
Ça faisait 1, 2, 3, tout de même. 4, 5, 6, Alice. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues.
1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when.
Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour de pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de voir des son âme. On est plein pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends
et ce sera comme ça chaque jour, 11h, 12h30, on sera 1, 2,
3.
Il y a Jean-Seb, il y a Louise et il y a Bibi. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'RTL vous régale. On file au marché. A tout de suite, c'est l'été RTL.
RTL vous régale.
jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
S'il y a un truc qu'on adore dans cette émission, ce sont les marchés. On va donc vous emmener sur le marché de Dinard.
Ouais, on va rester
parce que là-bas, c'est une institution.
Absolument. Le marché de Dinard, on vit toujours à la fin du 19e, comme la ville. En 1873, un des bâtisseurs de Dinard rachète des terrains marécageux qui étaient à cet endroit. Donc aujourd'hui, c'est le plein centre-ville et il y fait bâtir une halle. Et à la différence des marchés traditionnels des grandes villes, qui s'assoupissent doucement parfois pendant les vacances. Celui de Dinard, évidemment, il bat son plein durant l'été. Il attire des milliers de chalands. Il faut voir quand même qu'il y a 280 commerçants qui se retrouvent sur le marché de Dinard en été. C'est la moitié hein, le reste de l'année.
Dites-le des déballeurs, parce que j'adore ce terme.
Si vous voulez, j'aime bien.
Et ben, c'est vrai que c'est joli. C'est
dans le marché de plein vent qui est autour de la halle, ce sont des déballeurs. Ça
vas-y,
comme
déballe.
Ça. Et sur de part et d'autre, de la halle, il y a deux places. Trois matins par semaine, mardi, jeudi, samedi. On se retrouve là-bas pour aller acheter les meilleurs produits. Le marché du samedi de Dinard est absolument impressionnant. On vient pour acheter les fruits de saison, on vient pour acheter les légumes du pays et Dieu sait que la Bretagne en regorge. Les poissons, ils sont comme à la Gonelle, ils sont ultra frais. Ils sautent directement sur les étals depuis la mer. Les fruits de mer sont fruits de mer, hyper iodés. Vous avez des fleurs, vous avez des souvenirs artisanaux. Vous avez également plein de stands pour acheter des plats cuisinés. Ce qui est plutôt pas mal parce que quand on y va comme ça le samedi matin, juste pour le week-end, vous prenez votre plat, mettez ça, hein, puis vous allez sur la plage, vous posez et vous avez un déjeuner formidable pour vous tout seul. C'est ça le charme du marché de Dinard. Et évidemment, évidemment, quand on est en Bretagne, quand on va au marché, on mange une galette.
Évidemment. Aussi. Vous avez dit plat cuisiné, je l'ai noté.
Je l'ai noté.
Car ça sera la rampe de lancement du défi frigo. Deux plats cuisinés, c'est ce qu'on exige de vous, Louise et Jean-Sébastien, dans un instant. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est René, elle est à côté de Rouen. René, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Bienvenue sur
bonjour,
RTL. René.
Bonjour.
René, comment se passe ce début d'été du côté de Rouen ?
Plus vieux.
Bah, qu'il dites-vous, ouais, je sais.
Et on va venir à Rouen d'ailleurs.
On va sans doute faire une escale tout près de chez vous en direct. D'ailleurs, on vous tiendra au courant. On va vous en reparler.
Ah, ouais. Bien.
On viendra vous faire un petit coucou. On va bouger quelques fois pendant l'été.
Oui.
Dans un instant, le défi frigo, deux recettes. Alors, c'est vous qui allez nous proposer le produit du jour en ce début de semaine, René.
Je voudrais des petits pois que j'ai dans mon frigo et je voudrais des recettes différentes de ce que je fais d'habitude.
C'est-à-dire quoi d'habitude avec des petits pois ?
Des petits pois, je fais des jardinières, Oui, c'est délicieux, surtout que c'est des petits pois du jardin.
Ils sont verts.
Voilà.
Oui, parce que s'ils sont rouges...
Ah bah les petits pois sont rouges, c'est moins intéressant.
Oh
voilà.
Mon Dieu, René.
Vous avez vu comment je lui ai servi ? René, ne bougez pas, deux recettes originales, ils vont nous faire rêver comme tous les jours. Je rappelle que cette semaine, on joue pour un week-end de deux nuits à l'abbaye de Talloire. C'est un sublime hôtel 4 étoiles, au bord du lac d'Annecy. C'est le lac le plus pur d'Europe. Et puis sous les terrasses ombragées du restaurant gastronomique de l'abbaye de Talloire, le chef Christophe Le Digol compose pour vous une balade culinaire au goût, aux couleurs et aux odeurs des produits de cette région d'Annecy. Vous ne bougez pas, René, on se reparle dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. RTL Voyage, c'est l'émission parfaite pour voyager. On vous donne tous les éléments pour préparer votre virée. Et puis l'autre étape utile pour voyager en toute sécurité est évidemment de se faire vacciner. Puisque je rappelle que face à la crise sanitaire, la seule solution pour s'en sortir, pour reprendre une vie normale et pour protéger des vies, reste le vaccin. Alors jouons-la collectif en nous faisant tous vacciner. On se reparle dans quelques minutes, juste après les infos. Vous écoutez RTL, il est midi. Le Flash vous est présenté tout de suite par Stéphane Genest.
La France dans le viseur des autorités marocaines. Le Maroc vient de durcir ses règles d'accès pour les voyageurs en provenance de l'Hexagone. Ce sera à partir de demain soir. Concrètement, test PCR négatif de moins de 48 heures obligatoire, même pour les personnes entièrement vaccinées. Et pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, eh bien là ça se complique. Il faudra se mettre à l'isolement pendant 10 jours dans une des structures mises en place par les autorités. Un isolement soumis à des contrôles. Le tout évidemment à la charge du voyageur. Avant avant de refaire un test au bout de 9 jours. Autre pays, autre mesure, c'est Malte qui a simplement décidé de ne plus accepter sur son sol des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et cela n'est pas du tout au goût de la Commission européenne qui tente de faire changer d'avis les autorités maltaises. Retour en France puisque c'est bel et bien le variant Delta du Covid qui préoccupe les autorités, tout comme la stratégie à adopter pour que les Françaises vaccinent. Emmanuel Macron s'exprimera tout à l'heure à 20h à l'issue d'un conseil de défense sanitaire exceptionnel. Et justement, vous pourrez évoquer tout cela avec Christelle Robière dans une demi-heure, RTL Midi, puis les auditeurs ont la parole. Alors au menu, vous pourrez parler du pass sanitaire dans les restaurants. Est-ce qu'il faut le rendre indispensable pour par exemple manger des huîtres sur une terrasse à Cancale, vu qu'on parle de la Côte d'Émeraude? Vous évoquerez aussi l'obligation de se faire vacciner, et notamment pour les soignants. C'est une des décisions que pourrait prendre Emmanuel Macron ce soir. Et puis on parlera camping-car, puisque la mode du camping-car revient. Vous êtes de plus en plus nombreux à partir en vacances avec votre maison, non pas sur le dos, mais dans le dos. Rendez-vous donc à midi et demi avec Christelle Robière au 3210 et RTL Midi, puis les auditeurs ont la parole. L'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment cette victoire de l'Italie face à l'Angleterre à l'Euro de football. Vous étiez d'ailleurs 12 millions à suivre la rencontre sur M6. Les Italiens sont sur le toit de l'Europe et les Anglais qui se réveillent donc avec la gueule de bois. Quelques incidents à signaler en marge de cette rencontre à Londres, tout comme sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre britannique Boris Johnson dénonce les insultes racistes visant des joueurs anglais après leur défaite en finale de cet Euro de football. Et cette info pratique, les magasins U et Intermarché viennent de procéder au rappel de chorizo. Des traces de salmonelle auraient été retrouvées dans du chorizo de la marque La Allegria. Il a été commercialisé entre le 30 avril et le 6 juillet dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Un mot du Tour de France, jour de repos, mais même en journée de repos, il y a des abandons, figurez-vous. L'Italien Vincenzo Nibali a annoncé qu'il ne prendrait pas le départ demain. Le vainqueur du Tour 2014 quitte donc la grande boucle avec pour nouvel objectif les Jeux Olympiques de Tokyo. On jette un coup d'œil à vos prévisions météo de cet après-midi avec des tons gris pratiquement partout en France, des nuages et même de la pluie. Des averses orageuses sont même à prévoir au nord de la capitale et dans la vallée du Rhône. Si vous voulez voir un peu de lumière et prendre le soleil, eh bien, il faudra aller sur les bords de la Méditerranée. Et en Corse, les températures, eh bien, elles baissent un peu. 17 degrés à Saint-Malo, 18 à Bayonne, 22 à Lille et Paris, 25 à Strasbourg et Perpignan, 29 pour Marseille et la maximale sera pour Ajaccio avec 31 degrés. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Châteaubriant, départ à 13h50. Les pronostics de Jordan Philippi, l'As, le 6, le 3, le 9, le 15, le 4 et le 5. Et sa dernière minute, c'est l'As Capta. Midi passé de 3 minutes et on se régale avec vous, Jean-Michel Zeka, pardon. Désolé.
Jean-Michel Petit-Demange.
Oui, je voulais faire des
oui, je vous ai vu venir.
Voilà. C'est une belle équipe finalement. Voilà.
C'est ça la symbiose, vous voyez. C'était Stéphane Jeunesse.
C'est ça, oui.
Merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à midi et demi.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec des petits pois. Ce midi, au menu du défi frigo proposé par René. Tiens René, j'ai jeté un coup d'œil. On sera à côté de chez vous au musée des Beaux-Arts de Rouen le 5 août.
Ah.
Voilà.
Voilà, vous viendrez voir.
Donc si vous, n'êtes pas parti.
Non, nous ne sommes pas partis, on essaiera de venir vous voir.
Vous savez ce qu'on va faire? Alors si vous êtes là, vous venez nous voir et vous viendrez nous expliquer laquelle des deux recettes vous aurez préparées, puisqu'on va le savoir ça dans quelques instants, et surtout ce que ça a donné.
D'accord.
Et éventuellement nous faire goûter.
Mince. Oui, et éventuellement régler vos comptes.
Voilà.
Accessoirement. René, on commence avec qui?
Louise.
Allez, c'est parti pour Louise. 1 minute 30 des petits pois. Que faites-vous de ces petits pois?
Alors René, pour moi c'était compliqué parce que les petits pois, je les mange au beurre avec du lard. Et pour moi, c'est ça la vie. Mais je vais vous proposer une recette de petits pois croquants au wasabi pour l'apéro. Vous prenez 500 g de petits pois frais, 3 à 5 cuillères de café de wasabi. Vous lavez les petits pois, vous les séchez bien. Ils doivent être vraiment très secs. Vous prenez un bol, vous mélangez votre wasabi, du sel et vous allez frotter vos petits pois avec vos petites mains pour qu'ils soient bien enduits de ce mélange de wasabi. Est-ce que vous me suivez, René ?
Oui, j'écoute.
Voilà. Ensuite, vous allez mettre ça sur une plaque et vous allez faire cuire ça au four 15 minutes à 100 degrés. Vous laissez refroidir et ça vous fait un petit apéro light parce que ça évite la cacahuète, tout ça, qui sont pas très bons pour la ligne.
Je pense qu'on vient d'entrer dans l'histoire. Louis signe ce midi une recette en 40 secondes.
Voilà.
40 secondes.
C'est simple, c'est efficace, ça fait plaisir à tout le monde et puis surtout c'est fait maison.
C'est pas compliqué d'enduire des petits pois qui sont fragiles de cette pâte de wasabi.
C'est comme le couscous, vous frottez, vous savez, ce
joli
geste.
Ouais, c'est un joli geste avec le beurre.
Et donc vous frottez vos petits pois. Mais non, c'est pas compliqué parce qu'ils sont pas cuits, ils sont crus. Donc ils se tiennent bien.
Normalement, ils tiennent bien, d'accord. Bon, face à Louise, Jean-Sébastien, est-ce qu'on est sur un truc qui va durer 1 minute 30? Je n'en sais rien. On part sur quoi, comme on dit dans les grandes maisons?
Pasta et piselli.
Mais non, il va le faire.
Oui, je vais vous faire des vraies bonnes pâtes que j'aime, avec justement des petits pois que vous allez écosser. Vous hachez un oignon. Vous avez de la pancetta, vous la coupez en dés. Vous prenez une sauteuse, vous mettez de l'huile dedans. La pancetta, vous la faites revenir juste comme ça pour qu'elle soit un petit peu fristouillante. Ensuite, vous ajoutez l'oignon que vous faites blondir 3 à 4 minutes. Une fois que l'oignon est blond, vous jetez les petits pois dans la sauteuse et vous les recouvrez, allez, on va dire d'un demi-litre d'eau, juste qu'ils soient à peu près recouverts. Et puis vous allez, dès que ça bout, ajouter les pâtes. Et vous faites cuire par absorption vos pâtes. Les pâtes, il faut que ce soit des petites pâtes courtes, des tout bêtis, des petites choses qui puissent absorber l'eau de cuisson. Et là, vous allez remuer pendant 8-10 minutes, vous ajoutez de l'eau tant que ça absorbe, si besoin, et puis, eh bien, vous, dès qu'elle soit al dente, vous ajoutez parmesan, pecorino, et vous faites mantecare, comme on dit, dans un risotto. Et à partir de là, un tour de moulin à poivre, un beau poivre blanc qui va donner un petit peu de peps à tout ça. Vous ajustez au niveau sel et vous avez les pasta et piselli qui sont des pâtes aux petits pois, qui sont une recette napolitaine absolument sublime.
Vous avez le plat des champions d'Europe.
Voilà.
C'est un bel hommage.
C'était en hommage.
Ah bah c'est un très bel hommage. René, ma chère René, alors on est en présence de deux recettes qui sont extrêmement différentes. On a un petit pois wasabi, un petit pois wasabi à ma gauche avec Louise, une pâte aux petits pois pancetta à ma droite. Pancetta fristouillante.
Fristouillante.
Je l'ai noté.
Écoutez, oui, même si je vais essayer la recette de Louise, mais je préfère la recette de Jean-Sébastien.
J'aurais pu vous le signer, ça. Non, mais je vous le dis franchement, je l'ai vu venir de très très loin.
Mais je vais essayer quand même.
Vous viendrez nous faire goûter à Rouen.
Oui, non, c'est ça. Oui. Venez, franchement, faites-le, ça nous fera plaisir de vous voir.
Oui, et c'est très gentil. Donc, de toute façon, ça peut être froid, donc on peut vous l'amener comme ça.
D'accord. Non, mais on ne voyage jamais sans notre micro-ondes.
Hein. Donc, en fait, on a un peu gagné tous les deux.
Ah non, commencez pas comme ça, vous. Non, 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 victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange ce matin. Ah non, non, il n'y a pas de place pour le doute. Bon, on vous met évidemment dans le petit chapeau pour le tirage au sort de la fin de semaine.
Ben oui, oui, on espère avoir de la chance.
Faut croiser les doigts, on vous offre un week-end de deux nuits à l'abbaye de Talloire, sublime hôtel 4 étoiles au bord du lac d'Annecy, je le rappelle. C'est un cadre magique, c'est 1000 ans d'histoire. Et puis, au-delà de tout ça, vous ajoutez un spa de 200 mètres carrés, un accueil de passionnés à votre service. Vous allez vivre un week-end d'évasion totale à l'abbaye de Talloire. Si on vous rappelle, vendredi, c'est que c'est bingo.
Parfait. Écoutez, ça ferait beaucoup plaisir, mais on était très contents surtout de vous avoir au téléphone.
Ah. On vous embrasse, on vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous. Et une montre RTL ainsi qu'un guide
beaucoup.
De routard.
Voilà.
On vous envoie ça très vite du côté de Rouen. Et venez nous voir, hein, le 5 août, Musée des Beaux-Arts de Rouen, RTL vous régale, sera en direct avec Jean-Seb, Louise et moi-même. On vous souhaite un très bon début d'après-midi. On est là pour une bonne vingtaine de minutes encore. Voici Gaëtan Roussel.
Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble.
instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Là, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble.
De la compilation Les Artistes RTL 2021, 40 tubes réunis sur un double CD, la bande son idéale de votre été. Je me jette à ton cou, c'était Gaëtan Roussel sur RTL.
Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Parce qu'on est entre amis, tout l'été, 11h, 12h30. Alors il y a beaucoup d'émissions de radio dans lesquelles, oui, on est entre amis, on vous propose des trucs sympas. Non, ici c'est authentique, c'est dans l'ADN d'RTL vous régale, et on vous le prouve tous les jours, qu'on va vous donner ces petits conseils d'amis, région par région, que rapporter à la maison, etc. On est presque à l'heure de partir en vacances, si vous êtes sur le départ en ce début de semaine, pourquoi pas. On va vous aider à dénicher les meilleures spécialités, le meilleur de la Côte d'Émeraude aujourd'hui. Louise, il y a une légende.
Oui.
Derrière les gavottes.
Oui, il y a toujours des belles histoires derrière les bons produits.
On rappelle ce que c'est d'abord.
Bah, la gavotte, vous savez, c'est la crêpe dentelle, le petit biscuit. Et alors la légende dit que Marie-Catherine Cornic était crêpière à Quimper dans le Finistère. Et il paraît qu'elle était complètement omnibulée par un beau marin qui passait par là. Et donc elle faisait que de le regarder. Et elle a laissé sa crêpe trop longtemps sur le feu. Et comme elle s'est dit, je vais pas la jeter, et bah, elle a décidé de la rouler délicatement et d'en faire un petit biscuit. Et on est en 1893 et la crêpe dentelle est née.
Voilà, il y a de l'amour dans cette gavotte.
C'est une histoire d'amour.
Bien sûr. Jean-Seb ?
Oui.
Des galettes, mais pas que.
Gavotte qui a été, l'usine qui a été reconnue entreprise du patrimoine vivant, c'était en 2013, ce qui est un label d'excellence dans l'archipel français de nos produits. C'est absolument remarquable. C'est vrai que la Bretagne, c'est le pays des galettes, c'est le pays des palais, c'est le pays des sablés. La plupart de ces produits que l'on trouve aujourd'hui chez les artisans viennent de traditions familiales. Chaque recette est un subtil dosage de farine, de beurre, de micel, de sucre, d'œufs, les formes, le temps de cuisson, tout ça joue pour faire telle ou telle recette. La maison Guéla à Saint-Malo, qui est également à Cancale, qui est à Dinard, vous allez pouvoir trouver quelques bons biscuits, quelques petits craquelins également à rapporter. Le craquelin, c'est ultra traditionnel, c'est un biscuit sec qui a été échaudé. Donc la pâte a été plongée dans l'eau framissante avant d'être recuite dans un four chaud, c'est super bon. Et vous allez pouvoir en trouver un peu partout, voilà, sur cette côte d'Émeraude.
Généralement, c'est dans des jolies boîtes. Oui. On garde aussi la boîte en souvenir et ça nous rappelle nos vacances bretonnes.
Qui n'ont rien à voir avec les craquelins du Nord, qui sont rien plutôt des pains briochés avec des espèces de cristaux de sucre. Louise, on fait de la bière dans le coin aussi, pas loin de Saint-Malo d'ailleurs.
Tout ça nous donne un peu soif. La brasserie d'Émeraude, qui est située à quelques kilomètres de Saint-Malo, et vous pouvez y rencontrer Cédric, qui en pleine reconversion fait de la bière.
L'histoire de Cédric, elle est géniale. Il est en ligne en plus, on va pouvoir en parler avec lui. Cédric, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour. Bienvenue dans RTL vous régale. Je disais, votre histoire, elle est...
Elle est sensiblement pareille à ces histoires de reconversion professionnelle, des gens qui ont envie de changer de vie. Alors, je ne sais pas si c'est la Covid ou autre chose qui vous a donné cette idée, mais vous, avant de devenir brasseur, vous étiez dans le bâtiment, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Ouais, voilà. J'étais en maçonnerie.
Donc, voilà. Et donc, racontez-nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la seconde S, la minute M, où vous vous êtes dit, je vais quitter le bâtiment, je vais faire de la bière.
Alors, moi, en fait, le fait des intempéries, surtout, moi, qui était le principal problème, mais je voulais garder le côté artisanal, donc on peut retrouver dans une bière.
Il faut expliquer, je vous interromps, il faut expliquer, quand vous parlez des intempéries, c'est que quand on travaille dans le bâtiment et qu'il fait pas beau, ben, on peut pas travailler. Et donc, on est en espèce de chômage technique, et du coup, il faut trouver le temps de s'occuper.
Oui, voilà. Et moi, j'étais attiré par la bière. Enfin, c'était un domaine, moi, qui m'intéressait déjà. Et puis, on gardait le côté artisanal, puisque, en fait, on transforme des matières premières pour en faire de la bière. Donc, ça, on reste artisan malgré tout. Et nous, on adore travailler ces produits. Donc, nous, on prend le malt localement. Maintenant, on arrive à prendre le houblon aussi localement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur énormément.
Et vous nous proposez une gamme de 3 bières, Cédric, c'est ça ?
On en a un petit peu plus, mais nous, ça va de la bière de blé, donc ce qu'on appelle aussi bière blanche. Donc c'est des bières où il y a moitié blé et moitié orge.
Comment elles s'appellent ?
Alors on a la Aldeta et la Teles.
Oui.
Donc la Aldeta, c'est avec une levure de champagne, donc ça c'est une petite spécialité. Donc ça donne des fines bulles, ça se boit dans une coupe de champagne et c'est très agréable, c'est pas du tout amer. Donc là, les gens aiment bien. Puis après, ça va de la brune qui va avoir plus un côté torréfié. Après, on a de la triple aussi, donc là, qui va être un petit peu plus fort en alcool. On a de la bière ambrée au rhum, parce que Saint-Malo, c'est aussi la route du rhum. Donc...
Ça a changé quoi dans vos dits de faire de la bière, justement ?
Alors, j'aime beaucoup, parce que on est dans le domaine du plaisir. Enfin, on a un petit magasin, puis on vend aussi ailleurs. Et là, on voit des gens qui sont là, qui sont décontractés, qui sont très souvent même sympathiques. Et nous, c'est quelque chose, c'est très agréable. Il y a beaucoup moins de problèmes que dans le bâtiment. Donc, quand on maîtrise la qualité, ça roule tout seul, quoi, je dirais.
Et si on peut visiter la brasserie, donc la brasserie d'Emeraude, hein, on le répète. On peut la visiter ? On peut vous rencontrer ?
Oui, tout à fait. Alors, vous venez de 8h30 à 19h tous les jours, et du samedi de 10h à 19h. Et puis, quelqu'un vous fera le plaisir de vous faire visiter, de vous montrer
les installations. Et boire un petit coup.
Mais on viendra boire une petite gueuse.
Faut pas hésiter.
Et on répète, bien sûr, à consommer avec modération.
Évidemment.
Tout à fait.
Merci Cédric.
Merci Cédric.
Et on vous souhaite tout le succès que vous méritez, en tout cas. À bientôt.
Merci à vous. Bonne journée.
On est dans la région de Saint-Malo, réputée aussi pour sa culture de pommes de terre.
Oui. Mais on en a fait une confiserie. La patate de Saint-Malo. 1920, un confiseur a eu l'idée de créer ce petit bonbon en relation avec la tradition de la pomme de terre. Bonbon qui ressemble à s'y méprendre à une petite pomme de terre grenaille. L'idée était iconoclaste à l'époque où la ville était entièrement tournée vers les produits de la mer. Mais il n'empêche que, comme c'est plus simple de rapporter un bonbon que de rapporter une seule comme cadeau à sa grand-mère qui habite à 800 km, eh bien, les touristes sont repartis en masse avec leur petit paquet de patates de Saint-Malo. C'est une amande pilée, du sucre cristallisé, le tout est aromatisé avec du kirsch. Là, les patates sont ensuite roulées dans de la poudre de cacao. C'est tendre, c'est fondant en bouche, c'est un bonheur. Et puis vous pourrez rapporter aussi du pommé.
Ah ouais.
On se croirait presque dans un défi frigo.
Oui. Le pommé. Alors, à Rennes, le pommé, c'est une pâtisserie fourrée à la marmelade de pommes. C'est fin, délicieux. Et puis, ce pommé, il tient une place importante à l'origine dans l'alimentation des familles, des campagnes d'Ille-et-Vilaine, parce qu'en fait, on cuit des pommes et du cidre. On cuit pendant plus de 24 heures. Au final, c'est ultime comme affaire.
On va faire un petit pas de côté d'ici quelques instants. Vous savez qu'on termine toujours cette émission en allant un peu sur les chemins de traverse.
Voilà.
On prendra le bateau au départ de Saint-Malo ou pas ?
Il y a des chances.
Eh ben, bougez pas. On vous raconte tout dans un instant. Vous êtes dans RTL, vous régale, comme chaque jour de l'été, 11h, 12h30.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Allez, on est à l'embarcadère. On est prêt pour le pas de côté avec Jean-Sébastien, parce qu'on prend le bateau ce matin.
On va prendre le bateau à Saint-Malo, on va se rendre sur les îles anglo-normandes et sur Guernesey.
Très exactement. Pourquoi Guernesey ? D'abord parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'évoquer ces paysages d'une incroyable beauté que l'on découvre là-bas. Et je vous promets que c'est pas exagéré de le dire. Il suffit de voir les tableaux de Renoir. Renoir a peint sur Guernesey et on se rend compte dans ces tableaux du romantisme absolu de la nature indomptée de cette île. Sur la côte sud, vous avez des falaises accidentées, des baies verdoyantes qui servirent longtemps de repères mystérieux aux contrebandiers. Au nord, ce sont plus des longues plages de sable fin, avec une mer qui offre des spots de surf ou de windsurf très prisés par Jean-Michel, qui est un grand spécialiste du windsurf.
Émérite.
Cette île, c'est aussi un bonheur pour les cyclistes et les randonneurs. À Guernesey, c'est en fait un monde à part. On est à 30 km des côtes de France. C'est un morceau de France tombé dans la mer qui aurait été ramassé par l'Angleterre, disait Victor Hugo. Et il connaissait bien Guernesey, puisqu'il y a passé 15 années en exil. Sur Guernesey, on n'est pas au Royaume-Uni. On n'a jamais fait partie de l'Union européenne. On roule à gauche. Mais les rues portent des noms comme le Val des Terres et les Grands Moulins. Alors la capitale, Saint-Peterport, est une jolie petite ville surplombant le port où on débarque du ferry. À l'entrée du port, vous avez Castle Cornet, qui est un château du 13e, qui veille encore sur l'île. Et puis on se rend compte en se baladant qu'avec ses ruelles tortueuses, ses escaliers étroits, ses mansions de l'ère édouardienne ou géorgienne, la petite capitale, elle a bien bien du charme. Moi, je suis parti là-bas après avoir lu Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrows. C'est une histoire qui se passe durant la guerre, durant l'occupation de l'île par les nazis, parce que ça a été la seule terre sous administration anglaise qui a été occupée par les armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est étonnant, dans la mesure où les Français, se rendant à Guernesey, partent surtout sur les traces de Victor Hugo, en fait. Parce que oui, il faut aller visiter la maison de Victor Hugo. La maison où il a habité pendant 15 ans, Hauteville House, c'est la maison dans laquelle il a vécu entre 1856 et 1870, après s'être opposé au coup d'État de Napoléon III. Au dernier étage de cette maison conçue comme un poème qui a été entièrement décorée par Hugo et qui restait en l'état. On découvre la pièce où il écrivait debout sur un lutrin avec le rivage français pour horizon. Les Misérables sont nés là-bas. L'Homme qui rit, les Travailleurs de la mer également, ont été écrits dans ce décor de bric-à-brac hétéroclite et génial qui fait passer... et qui, plus on monte dans les étages, plus on monte dans les étages dans cette maison, et plus on passe justement des ténèbres vers la lumière. C'est peut-être ça l'exemple que nous donne Guernesey en regardant le continent.
C'est joli ça, dans les traces d'Hugo, je trouve, à Guernesey.
Ouais,
c'était un joli,
pas,
là, c'est un joli pas de côté.
Je peux vous dire que je reviens sur mon sur mon cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates.
Oui, alors ça, je voulais qu'on élucide un peu.
Si vous avez l'occasion de lire le livre ou de voir le film qui a été tiré, je crois que le film date de 2018 ou 2019. Cette histoire est une pure merveille.
Parce que moi, je m'imaginais Hugo en train d'écrire Les Misérables.
Ouais, moi aussi.
Vous allez voir que c'est une histoire encore une fois de littérature, mais ça n'a rien à voir avec Hugo.
On fera des petits pas de côté tous les jours avec Jean-Seb pour terminer. RTL vous régale, à tout de suite.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Allez, avant les infos de midi et demi et le journal présenté par Christelle Rebière, le bilan de cette balade sur la côte d'Émeraude. On part visiter le port de Cancale, la pointe du Moulinet, la vallée de la Rance, la villa Eugénie à Dinard.
Ouais. On mange des huîtres.
Voilà, vous aurez noté qu'on mange des huîtres, du homard, de la langoustine et tous les fruits de mer possibles et d'une fraîcheur inimaginable.
Et attention, on ne mange pas de Saint-Jacques. Hein.
Absolument pas pour le moment, en tout cas.
Pas pour le moment. Hein.
On rapporte quoi ? Des gavottes.
Oui, par exemple.
Du pommé.
Oui, aussi.
De la patate de Saint-Malo.
Du beurre de micelle, voilà. Si vous voulez. Mais ça voyage pas forcément bien si on n'a pas de glacière. Non, ce qu'il faut savoir, on l'a pas dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Malo, c'est une ville qui a été sauvée après la Deuxième Guerre mondiale, parce que Saint-Malo a été bombardé. Il n'y avait plus rien à Saint-Malo. Et il faut rendre hommage à tous ces gens après la guerre qui ont numéroté, pierre par pierre, ce qu'ils faisaient.
Les vestiges, oui.
Et tout a été reconstruit à l'identité. authentique avec les pierres qui étaient sur place.
Et Dieu sait si faire du Vauban, c'est pas évident. Hein.
C'est pas simple, mais c'est vraiment un exploit d'avoir cette ville qui est absolument sublime. Saint-Malo est une des plus belles villes qui soit sur le littoral français. C'est un vrai plaisir de se retrouver là-bas. J'ai eu la chance, moi, de vivre un départ de Route du Rhum sur dans le bassin de Saint-Malo. C'est quelque chose qui est totalement incroyable, une ambiance. Malouine, c'est, quand je vous disais au début, c'est le Cap Canaveral du 16e au 18e, bah, ça continue à l'être une fois tous les 4 ans pour ce départ de Route du Rhum qui fait partie des courses mythiques parce que les marins sont encore des mythes.
Et vous savez quoi ? Si vous êtes dans le coin ce midi, emmenez les enfants si vous en avez avec vous là, faire un petit tour sur les chevaux de bois, le manège à l'entrée de la vieille ville qui est absolument somptueux. Vue sur la mer, c'est imprenable. C'était RTL vous régale, on sera de retour demain dès 11h avec Louise et Jean-Sébastien. On va rejoindre la route des coureurs du Tour de France demain puisque nous serons
dans les Hautes-Pyrénées.
Merci, à demain. Très bonne journée, vous écoutez RTL, il est midi.